Il y a du soleil, tout le monde vient. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de monde.
Alors.
C'est marrant.
On va commencer par le Kafsrout. Comme ça, ça va nous détendre. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué comme ça que Rabbeinu il dit, c'est une Torah du Likutei Moharan, c'est l'enseignement principal dans le, de Rabbi Nachman, et il dit comme ça, « Da, sache, « Ki tzarich ladun et kol adam le kafsrut, on se doit de juger chaque homme avec miséricorde, « Vafilou miché racha gamour » et même celui qui est « racha gamour », ça veut dire le « jeté des jetés », lui aussi, il faut le traduire, il faut le juger miséricorde, avec beaucoup de miséricorde. Et il faut, hein, ça veut dire c'est une obligation, chercher et trouver en lui même un peu de bien. Qu'est-ce qu'a dit ? Ah. C'est obligé, c'est une obligation. Parce que, je vais te dire pourquoi, parce que regardez le mal qu'il y a chez l'autre et chez nous-mêmes. Bon, commençons par l'autre déjà, d'accord ? Regardez le mal qu'il y a chez l'autre, c'est facile. Parce que à peine la personne, elle fait un truc qui ne va pas, tu l'as achevé, tu oublies le bien. Donc c'est un travail que chacun de nous on doit faire pour essayer à chaque fois de rechercher le point positif qu'il y a chez l'autre et qu'il y a aussi en nous. Parce que si... Qu'est-ce que tu as ? Hein ? Parce que si tu ne fais pas ce travail, en réalité, tu vas t'apercevoir que tu vas devoir faire le vide autour de toi très vite. Qui c'est qui peut dire « la personne qui est en face de moi, elle est toujours super ». Prends un mari, par exemple. Est-ce que ton mari, il est tous les jours super ? Non, il y a des jours où tu as envie de l'assassiner. Il faut le dire, c'est la vérité. Elle m'a la saute. C'est des mots forts, mais c'est des mots justes. Tes enfants, est-ce que tes enfants, ils sont toujours super ? Non. Il y a aussi des fois, il y a des moments où t'en peux plus. Ton amie, elle est toujours super ? Non, c'est comme ça. Ça n'existe pas quelqu'un qui est toujours super. Il y a des hauts, il y a des bas, comme toi d'ailleurs. Toi aussi, il y a des moments dans ta vie, tu trouves que franchement, t'es une fille super. Il y a des moments où tu te décourages même de toi-même. Tu te dis, je ne vais jamais y arriver. On prend l'exemple, par exemple, pour nous toutes, notre Shalom Bayit. Tous les jours, il y a des fluctuations. D'accord ? Il y a des jours où tu te dis super, j'y arrive. C'est comme la bourse. C'est comme l'amour aussi. Il y a des fois c'est top, il y a des fois c'est naze.
L'amour, tu veux dire le.
La relation.
Ah voilà.
Donc, on y arrivera, t'inquiète. On va toucher à tout le monde. Hana. Donc, il y a à chaque moment, d'accord, il y a des moments où tu montes, il y a des moments où tu es moins. Et. Tout le travail consiste à rechercher le plus. Parce que si tu t'attardes plus sur tout ce qui ne va pas chez toi et chez l'autre, bah tu vas voir que très vite, tu vas perdre courage. Ça, c'est le but du Yetzer Hara, d'accord ? De nous montrer en fait tout ce qui ne va pas chez l'autre pour nous décourager et pour abandonner la lutte. D'accord ? Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il te dit, sache que on se doit de rechercher, d'accord, le point positif chez l'autre et de toujours, même quelqu'un qui te semble être quelqu'un de complètement, mais vraiment affreux, quoi. Tu te dis, mais le type, il a rien pour lui. Même là-bas, tu dois aller chercher le point positif. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Rabbi Nathan, il a dit... Même un homme que je vois faire 801 fois toutes les avérotes de la Torah, même celui-là, je vais réussir à lui trouver du srout, ça veut dire du mérite. Ça n'existe pas quelqu'un qui est complètement noir. C'est pas possible. Il y a toujours un point positif. Et pour pouvoir construire dans la vie, tu te dois de te concentrer sur ce point blanc. Et à force, et Rabbi Nachman, il va encore plus loin. Il te dit quelque chose de très, très, très fort. En te concentrant sur le petit point blanc qu'il y a chez une personne, si tu fais un focus sur ce plan, tu fais un zoom, tu verras qu'à la fin, tu ne verras que ce point blanc-là. Salut Esther, ça va ?
Ça va.
Donc, et c'est... Et Rabbeinu, donc, il va aller encore plus loin quand il te dit, tu regardes le point positif et tu fais un focus dessus et donc, à la fin, tu ne vas plus voir que ça. Et encore, il va plus loin, il te dit, et en plus, quand tu fais ce travail, d'accord, de rechercher le point positif qu'il y a chez l'autre, il te dit, en réalité, tu vas lui faire grandir en lui du kafsrout et tu vas pouvoir l'arzir auto bitchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après toi, quand tu portes un mauvais regard sur ton mari ou sur ton ami ou sur un enfant, tu penses que l'autre, il le ressent?
Oui.
Bien évidemment. Une femme qui, par exemple, pense que son mari, c'est un bidon, comment il va se sentir le mari?
Mal.
Et donc, quelle réaction il va avoir? Enlève ton téléphone, Kim. Quelle réaction il va avoir, le mari? Exactement. Il va, ça veut dire, puisque lui, d'accord, le regard d'une femme est très important pour son mari. Quel que soit le mari, poubellier ou ministre, ou le plus grand des brigands, on s'en fiche. Du plus au moins, le regard d'une femme sur son mari, il est capital. Si une femme, elle regarde, d'accord, avec un regard un petit peu négatif et elle voit que ce qu'il n'a pas ou ce qui lui manque, ben, automatiquement, la personne d'en face, c'est ce qui va sortir en elle. Elle va se sentir toujours en minus et ne pourra même être faire ressortir de chez lui que ce qu'il a en moins. Donc, automatiquement, la personne, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire.
Très d'accord.
Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord?
Si. C'est la femme qui fait l'homme.
C'est la femme qui fait l'homme.
Même l'homme, il voit mal sa femme.
Il y a marqué qu'une femme, en réalité, une femme, en faisant un bon job, elle va arriver presque à réaccoucher son mari. C'est un vrai travail.
Avec les contractions?
Avec beaucoup de contractions. Dis-toi une chose. C'est que les contractions de l'accouchement, de l'enfantement, c'est rien à côté des contractions de l'accouchement d'un mari. Crois-moi, ça demande un vrai, vrai job. Mais ça en vaut la peine. Donc une femme, c'est bien, ta fille, elle vient au cours. Elle rentre des petits, exactement. Donc automatiquement... Si une femme, elle porte un mauvais regard ou un mauvais jugement sur son mari, tu peux être sûr que cet homme-là ne pourra jamais réussir. Il ne pourra jamais s'élever, il ne pourra jamais avancer, mais surtout, il ne pourra pas construire sa famille. Parce qu'un homme, en réalité, pour construire sa famille, il a besoin de sa femme.
Et de sa mère.
Tant qu'un homme il reste accroché à sa mère, c'est que sa femme n'a pas fait le job. Qu'une femme n'a pas fait son job, l'homme il va rester attaché à sa mère. C'est normal. Écoute, il sort de chez sa mère, Elle était là du matin au soir. Mon fils, elle le portait, c'était un roi, en général. D'accord ? Après, bien sûr, hein, on ne va pas rentrer dans le cas de chacune. Il y a des fois, malheureusement, des hommes ou même des femmes, d'accord, qui viennent de familles où ça n'a pas été le cas. Donc, encore plus, le mari l'attend de sa femme. Imagine un homme qui vient d'une maison où il n'y a pas eu de parents. Il est orphelin. Où la mère ou le père, ils l'ont un petit peu martyrisé, maltraité. Ou que les parents, la mère, elle était handicapée du cœur. Ça arrive, surtout dans nos générations à nous. D'accord ? Donc, le type, lui, en réalité, il arrive déjà, il est avec un vrai minus dans sa vie. C'est sûr qu'il va attendre de sa femme beaucoup plus que n'importe qui. Il va attendre que sa femme, elle le relève, elle le rende un roi. Si, en tant que femme, tu n'as pas compris ça, donc tu vas souffrir en réalité tout au long de ton mariage. Tous les hommes, et j'en connais pas un qui pourra dire le contraire, tous les hommes, ils ont envie, ils aimeraient, ils rêvent, d'accord, que le matin, on puisse, la femme, elle lui dit, chérie, c'est toi le plus beau, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus intelligent.
Tu joues un peu.
Rabbi Nachman, il a dit une chose. Au début, c'est comme, tu sais, quand on te dit, il faut être Bessimcha. D'accord ?
Attends.
Rabbi Nachman, il a dit une chose concernant la simcha. Il a dit, au début, tu fais semblant. Après, ça viendra. C'est la même chose. Au début, tu vas faire semblant.
C'est très long.
Mais oui, c'est toute une vie, la Avodat Hashem.
Mais le mari ne doit pas être tout le temps soumis à la mère. Il doit faire sa vie avec sa femme.
Oui, oui, Myriam, bien sûr. C'est évident.
Ben voilà.
Donc,
il y a des cas
si...
Ben oui, il y a des cas comme ça.
Bien sûr qu'il y a des cas.
Ils sont toujours soumis avec leur mère. Ils ne font pas...
Ce que dit Yael, c'est que justement, c'est à nous d'essayer de le rendre plus fort, de sorte à ce qu'il se détache de sa mère.
Oui, voilà. Ben, c'est ça.
Donc, si une femme...
Et ben oui, il y a des cas comme ça.
Donc, si une femme bémet... Elle arrivait à croire, parce que des fois, ça paraît ridicule en réalité. Tu dis quoi, Bémet, mon mari, si je lui dis, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus intelligent, Bémet, qui va se construire, ça paraît idiot et ça paraît simple. Mais oui, c'est ça la vraie vérité. C'est comme la notion, d'accord, de l'arzor bitchouva. Les gens, ils ont l'impression que pour faire tchouva, ça demande tout un programme. Faire tchouva, c'est tout simplement venir chez Hachem, lui dire, écoute, j'ai fait ça et ça, c'était pas top, je regrette, et voilà, on a fait tchouva. C'est la même chose, c'est des choses simples, mais en réalité, c'est avec des choses simples qu'on construit. On a des principes idiots qui nous bloquent, d'accord ? Et on a surtout le Yetzer Hara, faut pas oublier, d'accord ? Qui, à tout moment, essaye de détruire le couple. C'est-à-dire que il faut bien comprendre une chose, une maison juive... La maison d'un juif, c'est très précieux. On n'a pas idée de l'importance, d'accord, de la maison juive chez Akadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, d'ailleurs la preuve, c'est que le Yetzer Hara, il essaye 24 heures sur 24 de détruire ta maison. Avant le mariage, il essaye. Pendant, il essaye. Après, c'est tout le temps. Tout le temps une nouvelle histoire, tout le temps une nouvelle lutte, tout le temps une nouvelle bataille. Et bien mettre que si c'est pas, d'accord, la femme, par cette filote et par sa sagesse, jamais une maison ne pourra être construite. Si tu comptes sur le mari pour faire le shalom bayit, oublie. Le mari, il n'est pas capable. Il y a marqué « Isha bona, Isha oreset ». La femme, elle construit et la femme, elle détruit. Une femme, si elle sait comment prendre son mari et elle sait comment lui parler... Crois-moi qu'elle va le rendre un roi et automatiquement, elle va se rendre une reine.
C'est très pesant. C'est-à-dire qu'un homme, alors, si elle construit, elle détruit. Mais l'homme, alors, ça veut dire pas qu'il va faire quoi, mais c'est super pesant. C'est-à-dire pratiquement tout, c'est l'influence de la femme. Pratiquement. C'est-à-dire, lui, il est obligé de suivre.
Ça se fait naturellement.
Enfin, ça se fait. Elle t'a donné ta réponse. Tout ça va se faire naturellement. Les efforts, il faudra le faire d'une manière ou d'une autre. Souvent, tu fais des efforts dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Tu comprends ? Un homme, il a besoin d'une manière générale, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection et de beaucoup d'attention. C'est là où tu...
C'est la même chose que nos enfants.
C'est pareil que nos enfants. Tu as tout compris, Esther.
C'est que l'enfant, c'est naturel.
Mais c'est... Non.
Quand tu vois ton enfant, c'est plus facile de donner... Enfin, ça dépend pour qui.
Bah oui,
mais c'est un instinct maternel.
C'est un vrai don.
Écoute, en général...
C'est ça, c'est ton don de soi. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il donne alors?
Regarde.
Dans la maison. Il te donne quoi?
Regarde.
Si tu lui donnes, il va te rendre.
Je vais te dire une chose.
Si tu lui donnes pas, il te rend pas. Ouais, il te rend. Ouais.
Bah oui.
Ouais. Comprends une chose.
C'est déjà pas mal.
Les copines.
Si c'était à nous d'attendre, on attendrait. Mais le monde peut faire quelque chose. T'as la manette. C'est pas comme si c'était lui qui était.
Sans t'énerver.
Pourquoi ça fait deux jours
c'est vrai. C'est vrai.
Bon. Celle qui va. Alors.
Je peux dire. Tu veux dire quoi?
Tu sais, c'est une sikha traverim. C'est pas un cours. Regarde, ce qu'on fait ici, ça s'appelle une sikha traverim. C'est quoi une sikha traverim? Chacun peut dire ce qu'il veut. Regarde, je vais vous lire un texte. Les copines, je vais vous lire un texte que je voulais vous lire, Bémet. Que j'avais dit qu'on ferait ça la semaine prochaine. Donc, hop, on bascule. Et on va essayer de comprendre, Bémet, où se trouve le problème. Alors, ce texte, il se trouve dans le livre du Rav Mordechai Eliyahu, Zechono Levracha. C'est les chemins de la pureté.
C'est qui Mordechai Eliyahu?
Le Rav Mordechai Eliyahu, c'était un très grand, c'était un, le roi le Rav d'Israël, c'était un très grand tzaddique. Donc, les chemins de la pureté, c'est un livre qui traite des lois de la pureté familiale. Les copines. Les chemins de la pureté, c'est un livre qui traite de la pureté familiale. Et il y a un petit passage qui, s'il n'est pas pris en, il n'est pas pris un petit peu à cœur et qu'on n'essaye pas de le comprendre, on peut le passer très rapidement. Alors on va le lire et on va voir comment vous allez réagir. Les copines, vous écoutez? Alors... À l'occasion d'un voyage, juste pour vous remettre, ok, pour celles qui ne sont pas au courant de ce que c'est que la pureté familiale, je vous le fais en très rapide parce que ce n'est pas là le but. À part de se séparer de son mari quand on a les règles, d'accord, que ça, bon, je pense que tout le monde est au courant, il y a trois périodes où normalement on est censé se séparer. Alors regarde ce qu'il dit. Avant de partir en voyage, l'époux se doit d'accomplir son devoir conjugal auprès de sa femme, même si cela tombe le jour de ses règles, ou même quelques heures avant les règles, bien sûr, avant, bien, à condition qu'elle n'ait pas vu de sang. D'accord ? Maintenant, écoute. Avant de partir en voyage, il y a marqué que un époux, il se doit d'accomplir son devoir conjugal, même si c'est le jour de ses règles, à condition que la femme, elle n'a pas vu ses règles. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Écoutez ça, les copines, au fond, ça va vous intéresser. Cependant, qu'est-ce qu'il y a?
Surtout que normalement, il y a une vérification à faire aussi avant les règles.
Pour un jour avant ou un jour avant.
Oui, oui, mais tu sais quoi? Regarde. Attends. Juste pour reprendre, d'accord, pour pas qu'il y ait de trucs. Il y a le moment des règles, on se sépare. Maintenant, pour pas devenir dingue, tout le mois, parce qu'après tu sais pas quand tu vas les avoir la prochaine fois, les Chachamim, ils ont donné trois dates possible où les règles, elles peuvent revenir. D'accord ? Donc, ces trois moments-là, ça, c'est pour les femmes qui n'ont pas de règles fixes, qu'aujourd'hui, c'est la plupart. Donc, les Chachamim, ils t'ont donné trois dates. D'accord ? Il y a ce qu'on appelle la Ona à Chodesh, ça veut dire le moment du mois. Par exemple, tu as eu tes règles le mois dernier, le premier jour du mois de Kislev. D'accord ? Eh bien, le premier jour du mois de Cheshvan, ça peut être une date propice. Donc, c'est un moment pendant 12 heures où tu vas te séparer de ton mari. Et en effet, il y a des chaises à l'intérieur pour celles qui veulent. Ramène des chaises, Karen, comme ça c'est plus facile. Donc, à un moment où, au bout de ces 12 heures, quand, si tu n'as pas vu de règles, tu fais une dika. Si cette dika, elle est bonne, tu es repermise à ton mari. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la ona benonit, ça veut dire la période moyenne. C'est le 30e jour. Tu comptes 30 jours du jour où tu as eu tes règles la dernière fois. 30 jours après, si tu n'as toujours pas tes règles, tu te sépares encore une fois 12 heures de ton mari. Si au bout de ces 12 heures, tu ne vois pas de règles, tu fais une dika, tu es repermise à ton mari. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la onata flaga. C'est quoi la flaga? C'est la période d'intervalle. Pour pouvoir calculer cette période, tu es obligé d'avoir deux dates de règles précédentes. Ces deux dates de règles précédentes, il y a un intervalle d'une date à une autre. Tu prends cet intervalle, on va dire qu'il était de 33 jours, stam comme ça. Tes dernières règles, salut, tes dernières règles, tu comptes encore 33 jours et là tu es interdite à ton mari pendant ces 12 jours-là. Vous avez chaud, on ouvre la fenêtre? Tu veux ouvrir la fenêtre? Enlève mon sac. Donc,
je peux dire qu'il y a des applications pour ça.
Il y a des applications? Alors, il y a des applications à ce qui paraît sur Internet.
Non.
Mais sinon, sur Internet? Mais sinon, celles qui sont intéressées, il y a un petit calendrier. En général, j'enseigne que sur ce calendrier parce que je les ai tous essayés. C'est le plus simple. Celles qui sont intéressées, après, je peux vous aider, je peux vous montrer comment faire. C'est vraiment simple comme un... C'est un jeu, c'est vraiment un jeu. Le jour de... Quand tu, au bout de ces trois dates, à la fin des 12 heures, tu fais une dika. Si la dika, elle est bonne, tu es repermise à ton mari. Pourquoi c'est important? Salut les copines, il y a des chaises à l'intérieur. Karen, tu veux faire encore une mitzvah? Sors des chaises. Ramenez quelques-unes encore. Donc, pourquoi c'est important? On ramène des chaises, voilà, elles arrivent. Pourquoi c'est important de faire ces trois... Pourquoi ces trois dates-là sont importantes? Parce que si Bémet, tu ne connais pas tes dates et que tu n'as pas fait tes comptes pour savoir à quel moment tu es peut-être supposé recevoir les règles, la dernière semaine où tu es censé être avec ton mari, tu vas être dans la rosra du matin au soir. Peut-être je vais avoir mes règles, peut-être pas. Ça va te saouler, le mari ça va le saouler et donc aucun kiff. Donc c'est ridicule. Ensuite, l'intérêt aussi, c'est que Chasvé Shalom... Si tu n'as pas, c'est que Chas v'Shalom, ça peut arriver des fois que pendant un rapport intime, que Dieu préserve, la femme, elle ressente un écoulement sanguin. Et donc, au moment où elle est avec son mari et qu'elle a l'écoulement sanguin, elle se dit, mince, on était ensemble alors que j'étais Nida. Ici aussi, il y a marqué, si la femme, elle a fait ces trois périodes de séparation et qu'elle a fait ses bdicotes, même en plein rapport où elle a du sang, ils ne sont pas considérés comme fautifs et il n'y a même pas de tchouva à faire puisque de toutes les façons, elle était pure. C'était une parenthèse. Donc, on reprend le texte là où on s'est arrêté. D'accord ? C'était important qu'on explique tout ça. Donc, maintenant qu'on a compris, je réexplique. Avant de partir en voyage, l'époux donc se doit d'accomplir son devoir conjugal auprès de sa femme, même si cela tombe le jour de ses règles ou même quelques heures avant ses règles, à condition toutefois qu'elle n'ait pas vu de sang, bien évidemment. Maintenant, il y a marqué comme ça. Cependant, dans ce cas précis, il serait préférable qu'il console son épouse par de tendres paroles de façon à ce qu'elle renonce à cela et qu'elle lui pardonne. Donc là, en fait, on est dans un cas où le mari va partir en voyage et donc il se doit, c'est une obligation pour lui, même s'il ne veut pas, il se doit d'aller avec sa femme, d'avoir une relation intime avec elle, mais quand même, à moins que, bien sûr, à la condition qu'elle n'ait pas vu de sang, mais quand même, il faudrait qu'il essaye d'éviter, mais pour éviter ça, il faut qu'il la console, qu'il lui dit, écoute ma chérie, je t'aime très fort, je te fais des petits bisous, viens on essaye de ne pas avoir de relation intime ensemble, tu me pardonnes ma chérie, c'est pas grave si on n'aura pas de relation intime. C'est pas grave.
En général, c'est le contraire.
J'attendais, je me suis dit, dis-moi, je suis mariée avec des tzadikotes, à ce point, elles sont extraordinaires ou elles sont complètement... Je me suis dit, ou vous êtes des tzadikotes, ou je me suis dit, elles sont toutes à blague complète, elles comprennent rien à ce que je leur dis. Alors... Est-ce que ça a été compris ou pas, ou je répète? Alors je répète. Je répète. Imagine, tu pars, imagine que ton mari va partir maintenant en voyage. Bon. Toi, ce jour-là, tu es censé avoir tes règles, mais tu les as pas eues encore. Tu vois pas le sang. Donc, il a un devoir, ton mari, vis-à-vis de toi. Il a un devoir d'avoir une relation intime pour te faire plaisir à toi. Parce que toi, tu es censé crever d'envie.
Ah ouais.
Okay. Et donc, hein? Je te lis ce qu'il y a marqué. Alors, mais quand même, donc, le Rav Mordechai Eliyahu, c'est un très grand sadique. Attends, c'était le Rishon Letzion et Israël, c'était le roi, le Rav d'Israël, il est Nifta. C'est un livre de Tarat HaMishpacha. Tout le monde étudie ce livre. Bon. Bon, ça serait bien. Bon, ça, je vais les copines. Ah, bon, donc il se doit avant de partir en voyage de se dire bon, je vais partir, ma femme, la pauvre, je vais pas la laisser comme ça, sans relation intime. Je me dois, c'est une obligation, c'est la loi. Je me dois d'aller avec elle. Mais quand même, il y a marqué, cependant, dans ce cas précis, où elle n'a pas encore vu ses règles, d'accord, il serait préférable qu'il la console par de tendres paroles, de façon à ce qu'elle renonce à cela et qu'elle lui pardonne. Qu'elle lui dit, va chérie, c'est pas grave, j'attendrai, je vais me retenir. Ça va être dur, mais je vais attendre. Voilà. Après, je continue. Je continue.
Je suis désolée, mais bon, avec tant de force. Non, j'ai dit, finalement, plus commenter, je reste. Là, il me prend, moi, je pars. Il dit là, absolument, là, il part pas. Il part pas, même si c'est un cadeau, je ne raconte pas où il va, il part.
Dans le cas où cela, je termine pour qu'ensuite on essaye d'en parler. Dans le cas où cela tombe durant la période des 12 heures précédant le V7, ça veut dire précédant les règles, il devra accomplir l'acte envers sa femme. Attends. Dans le cas où cela tombe durant la période des 12 heures précédant le V7, c'est-à-dire maintenant, si on est dans un cas où c'est vraiment 12 heures bien avant, d'accord, il devra accomplir l'acte conjugal, ceci indépendamment de l'obligation qu'il a envers sa femme, de l'embrasser et de l'étreindre, et ceci même selon l'avis de ceux qui interdisent en temps normal tout rapprochement pendant ces jours particuliers. Mais si elle n'y renonce point, ça veut dire, Yanni, chérie, même que tu m'as embrassée, même que tu m'as dit des paroles tendres, même que tu m'as offert un cadeau, je ne peux pas. Je ne peux pas renoncer. Je veux quand même que tu me donnes ce moment. Il est tenu alors d'accomplir son devoir conjugal, à condition toutefois qu'elle n'ait pas vu de sang. Voilà, ça c'est donc, tu comprends le point qui est important ici. Donc, en effet, la plupart, vous vous êtes dit, c'est un film de science-fiction, je m'y retrouve pas du tout dans cette histoire. Qui est cette femme ? Il y en a un quand même qui existe, faut pas croire qu'on est toutes tordues. Donc là, on se pose la question, en fait, comment ça se passe ? De nous, on a grandi et on nous a, d'accord, formatés avec les médias, avec tout ce qu'on a pu, d'accord, nous enseigner que, en réalité, c'est le mari qui est l'obsédé et nous, les victimes. Nahon ? Oui ou non ? Bon. Et là, c'est bizarre, la Torah, elle vient et elle te dit un truc qui est complètement à l'opposé de ce que nous, on a appris d'abord. À aucun moment, on nous a dit, tu sais, ma chérie, c'est toi qui vas désirer ton mari, plus que lui te désire. Personne ne nous l'a dit ça. Et à aucun moment, on nous a dit que la relation intime, et oui, c'est vrai, non, malheureusement.
Non, c'est pas vrai. Faut pas non plus. On n'est pas non plus des saintes. On va pas faire genre qu'on n'a pas envie du tout.
Il y en a qui n'ont pas envie. Oui, on parle pour tout le monde. Il y a des femmes qui n'ont pas envie.
Mais là, on dit, c'est lui qui est censé plus vouloir que nous.
Non, ça c'est ce qu'on t'a appris. Ça c'est la télévision et tous les journaux que tu as pu lire dans ta vie qui t'ont appris. Mais là, écoute, là de ce que tu lis, moi, à moins que vous ayez compris autre chose.
Une fois que tu restes avec ta faim, il se doit d'accomplir avant de partir.
Il est obligé de te satisfaire.
Il est obligé de te satisfaire. Bon.
Écrit sur ta ketouba. Écrit sur ta ketouba.
Alors,
ah ouais.
Qu'est-ce qu'il y a, Alexia ?
C'est vrai que pendant 2 semaines après le mariage, si le mari n'a pas satisfait sa femme intimement, elle peut divorcer.
2 semaines après, c'est compliqué parce que normalement, tu es censé te marier vierge. Et normalement, au bout de la première relation, où il faut dire la vérité, c'est rare que c'est le 7e ciel, la première fois. Bah oui, alors c'est compliqué. Mais l'homme, il se doit de satisfaire sa femme. Qu'est-ce qu'il y a ?
Franchement, 2 semaines, c'est que ça régit quand même. Non, je ne voulais pas dire satisfaire.
Non, mais l'homme, il a l'obligation de donner à sa femme. Attends. Les filles, on va faire le point. L'homme, il a l'obligation. Les filles, normalement, après le mariage, si la fille, elle est arrivée, d'accord, vierge sous la choupa, après le premier rapport, c'est sûr que les 2 semaines d'après, elle est nida. Donc déjà, on n'est pas dans les bons comptes.
Donc, si elle a la
pilule... Mais non, même, oui, mais y a des femmes même si elle a la pilule...
Mais y a des
ah femmes. Non, attention, attends, je préfère préciser. Attends, 2 secondes. La petite pilule, Priscilla, c'est après coup. Ça veut dire que tu as fini l'histoire de la virginité et compagnie, tu es mariée, que tu n'as pas envie d'être nida quand tu pars en vacances avec ton mari pour pas que, chas v'shalom, on en vienne à déraper. Donc, il y a le primonut nord.
Tu la prends en mariage.
Tu la prends en mariage, mais après le mariage, figure-toi, tu peux encore la consommer de temps en temps quand tu veux rallonger le cycle. Bon. C'est Nida. C'est Nida. Ah, mais ça n'a rien à voir, justement, il faut l'arrêter.
Il y a des femmes qui sont mariées, elles ne sont pas vierges.
Oui, oui, je sais. Attends.
Elles ne sont pas obligées d'être vierges.
Vaut mieux, mais bon.
Mais c'est ce que tu as dit.
Attends. Attendez, les filles. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pour les arrêter. C'est pour les arrêter.
Bon. Les filles, attends, les filles. Les copines d'Herzélia là-bas au fond, revenez ici, on va tout vous dire. Les copines, on reprend pour que ce soit clair. Le sang de la virginité, ce n'est pas du sang d'impur. Enfin, c'est pas du sang de règle, mais c'est du sang qui rend impur. Donc la fille, de toutes les façons, le soir de son mariage, si ils ont accompli l'acte et qu'elle était vierge, elle va être impure pour son mari. D'accord ? Le
7 jours.
Pendant...
Non,
mais si vous voulez... Je vais tout vous dire, mais bon. C'est pas ça le but, en fait. Je voulais... Mais bon, c'est 4 ou 5 jours, et ensuite, il y a les 7 jours de pureté. Bon. Mais en général, les règles, elles arrivent puisque tu as pris une pilule. Donc, en général, tu te retrouves avec 15 bons jours, 20 jours dans la tête. C'est une bonne... C'est une grosse épreuve. Mais bon, c'est pas ça. Le médicament dont je vous ai parlé à Ouman... Primolut Nord, c'est pas un médicament qui raccourcit les règles, c'est un médicament que vous prenez pour allonger votre temps où vous êtes, si vous voulez, permise à votre mari, pour allonger le cycle. Voilà. D'accord ? C'est un médicament qu'en général les femmes elles prennent quand par exemple le mari fait beaucoup d'allers-retours. Pour essayer de faire en sorte qu'on soit ensemble, ou quand par exemple on part en vacances pendant un petit moment et que on n'a pas envie d'être dérangé par les règles.
Fermons. Tu peux préciser quand même qu'il faut le prendre avant.
Tu peux rallonger ta pilule pour celles qui prennent la pilule, mais il y en a qui prennent pas la pilule. Hein, il y en a qui prennent, ça c'est autre chose. Bon, alors maintenant on reprend, mais on peut tomber enceinte quand même avec cette petite pilule, hein, que le Primulot Nord, c'est pas un contraceptif. Attention, non. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre, les filles, ce qu'il faut comprendre, et on va essayer de les chaber, on va essayer de connecter ce qu'on a dit maintenant avec notre histoire de Ein Tov, de regarder les Kafsrout. Comment est-ce qu'une femme, elle va être capable, Bémet, de se retrouver dans ce cas de figure? Comment est-ce qu'une femme, elle va pouvoir se retrouver dans ce cas de figure où Bémet, elle désire son mari? Il se trouve que, sans nous en rendre compte, le fait, et ça vraiment, écoutez bien ce qu'on dit parce qu'on ne s'en rend pas compte. Malheureusement, dans la vie, il y a des situations qui font qu'on peut être déçu des gens, on peut, parce qu'on attendait beaucoup, on peut aussi... On peut aussi être, on va dire, intolérant. Et on va se retrouver dans une situation où on va mal juger la personne en face de nous. Maintenant, sans t'en rendre compte, quand tu juges mal ton compagnon, ton mari, quand tu juges mal une personne, d'accord ? On parle pour le mari, mais après, on va prendre sur tous les cas. Chacune, elle va... Alors, automatiquement, quand tu juges mal, tu penses mal sur la personne. Donc la personne va ressentir ça. Et donc automatiquement, bien évidemment, que même dans la vie intime, on va être touché. Quelle est la femme ? La femme, on sait que c'est beaucoup d'émotionnel. D'accord ? La femme, c'est que du regesh. Ça veut dire qu'une femme, c'est pas mécanique. Et si une femme, elle n'a pas été, on va dire, préparée, d'accord, émotionnellement, elle ne peut pas se donner dans quelque domaine que ce soit. Donc tu comprends bien que si tu es dans une situation où tu vois ton mari avec un mauvais regard et que tu le juges mal, il est évident que tu n'as pas envie d'aller avec ton mari parce que tu n'as pas envie de lui donner le meilleur de toi-même. Donc une relation intime, d'accord ? Et donc automatiquement, tu ne vas pas te reconnaître dans ce texte. Alors bien évidemment que dans une relation intime, c'est important que chacun essaye, d'accord, de donner à l'autre le maximum possible. Mais si on est dans un couple, dans un cas de figure, d'accord, où on n'arrive pas à se reconnaître dans ce schéma, c'est important de se poser la question pourquoi. Et très souvent, c'est parce que au niveau, d'accord, on va dire intellectuel, au niveau psychologique, j'ai été atteint. Par quoi j'ai été atteint? Par le mauvais regard, par le mauvais jugement. À partir du moment où j'arrive pas, d'accord, à regarder l'autre avec un regard positif, c'est sûr que je vais en arriver à ne plus le supporter. Et si je ne supporte plus l'autre, ça veut dire je ne supporte plus ce qu'il représente, je ne supporte plus ce qu'il est à mes yeux, bien évidemment que je ne peux pas non plus, je ne veux pas avoir, d'accord, de relation intime avec lui. C'est un engrenage. Tout ça, c'est un engrenage. Si je regarde une personne d'une manière négative, ben, tout le reste va être négatif.
Alors, c'est le Yetzer Hara.
C'est un vrai Yetzer Hara que chacun, il a, d'accord, de toujours regarder l'autre d'une manière négative. Si maintenant, par exemple, tu fais un petit travail, d'accord, et chacune de nous, on se doit de faire ce travail tous les jours. On fait ce travail, on avait dit, d'accomplir la Torah de Hazamra. C'est quoi la Torah de Hazamra? C'est une des Torahs principales du Likutei Moharan, qui est de regarder le point positif qu'il y a en nous, chez l'autre, et dans une situation qu'on vit. De toujours essayer de regarder, d'accord, de chercher, de dire, attends, il y a du noir, moi mon travail dans ce monde, c'est de regarder le blanc. Si tu te fixes sur le blanc, tu verras que ce sera beaucoup plus facile après de reconstruire. Par exemple, quand dans un couple ça va mal, essaye de te rappeler pourquoi tu as aimé ton mari. Ce qu'il y avait hier, c'est ce qu'il y a aujourd'hui en réalité. Il n'a pas changé. Oui, il a changé. Il a changé. Pourquoi est-ce qu'on change?
Hein? On a mûri, on a grandi, on a eu des enfants, il y a eu des choses qui se sont passées dans notre vie qu'on est obligé de changer.
Et
on a moins de liens en choses que quand on a
changé. Et comme on a changé, mais qu'on n'a pas communiqué, comme on a changé, hein? À partir du moment où on a changé, tu as raison dans ce que tu dis, à partir du moment où on change, dans la vie, tout le monde change, d'accord? Comme tu as dit, Charlotte, on a eu des enfants et on a grandi, on a mûri. Alors, automatiquement, il y a un changement. Mais comme on n'a pas communiqué, on n'a pas parlé, on n'a pas exprimé, on n'a pas pris le temps d'exprimer ce qu'on avait au fond de nous, on est resté beaucoup sur des non-dits. Alors, automatiquement, on évolue, on change. Et puis, on se retrouve qu'en fin de compte, on n'a plus aucun rapport ensemble. On n'arrive plus à accepter l'autre. Par exemple, regarde, un exemple. Un homme, une femme, comment elle sait que son mari va l'aimer? Comment une femme, elle sait que son mari l'aime?
Elle va faire les choses avec l'épreuve.
Hein?
Elle va lui montrer.
Comment?
En la regardant, en lui parlant,
en lui donnant de la voix.
C'est ça, de montrer à une femme que tu l'aimes.
Dis les choses toi-même. C'est où, Kim? Comment est-ce qu'un homme, il montre à sa femme qu'il aime? Bon, alors, Bémet qu'un homme, il a, pour montrer à sa femme qu'il aime, une femme, elle a besoin, je crois, les filles, je pense qu'une femme, au-delà des diamants, au-delà de tout ça, que je ne dis pas que c'est négligeable et c'est sûr, mais je pense qu'une femme, au-delà de tout, elle a besoin de sentir qu'elle est comprise par son mari. Parce que tu peux avoir tous les diamants de la création, Kim et Charlotte, tu peux avoir tous les cadeaux, tu peux tout avoir. Mais si une femme ressent qu'elle n'est pas comprise par son mari, tout ça, ça ne sert à rien. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'une femme, le problème du mari, et ça, il n'est pas conscient. Souvent, la femme, elle vient chez le mari, elle lui parle. Et lui, le mari, il a la sensation que quand sa femme, elle lui parle, elle attend une réponse. Et nous, les femmes, on sait qu'on n'attend pas toujours une réponse. On a surtout besoin d'avoir cette oreille et cette sensation qu'il nous a compris, qu'il nous a écouté. Et le mari, lui, comme il ne le sait pas, parce qu'on ne lui a pas dit, alors, au fur et à mesure que sa femme, elle lui parle, et la femme, elle vient avec son mal-être, qui souvent pèse très lourd, alors il s'excite tout seul, il se sent mal, parce qu'il se dit, mince, qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'ai pas de réponse. Et puis tout de suite, il a l'impression, parce que ce que tu as dit, Alexia, c'est très vrai, l'homme, il a l'obligation de rendre sa femme heureuse. Alors quand sa femme, elle vient et elle lui dit, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce que j'ai. Lui, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est moi qui ne la rends pas heureuse, ça ne va pas. Et donc tout de suite, il va se sentir mal à l'aise. Et donc, il va avoir une attitude qui, là aussi, n'est pas bonne. Donc, on s'aperçoit que Bémet, la femme, à partir du moment où elle va sentir qu'elle n'est pas comprise par son mari, elle aura ce sentiment, elle va s'éloigner. Et donc, elle va grandir, elle va mûrir toute seule, elle va faire son chemin toute seule, avec ses copines. Il y a eu quelques semaines, j'ai eu une femme qui est venue me voir, qui me dit, je veux divorcer, parce que moi, je me sens très bien aujourd'hui. Elle était avec son mari. Je dis, ah bon, ça veut dire quoi, je me sens très bien? Bah oui, j'ai fait ma vie, mes copines, mes machins, mes trucs, bon bref. Elle fait son truc, elle s'épanouit dans son travail, elle s'épanouit dans sa vie. Et puis avec son mari, elle ne s'épanouit plus. Bon. Au fur et à mesure de la conversation, elle s'est aperçue qu'en réalité, c'était un faux épanouissement. Parce que tu ne peux pas t'épanouir toute seule, c'est pas vrai. Tu as besoin, quand tu es mariée, d'accord, tu as un mari, tu t'épanouis avec ton mari, sinon tu fais fausse route. Bon. Alors ça, c'est la femme qui croit que, d'accord, comme elle sent qu'elle n'est pas comprise et qu'elle sent que son mari n'arrive pas à lui donner ce qu'elle attend, elle va faire son petit chemin. Et un homme, comment est-ce qu'un homme sait que sa femme, il l'aime? Elle l'aime? Ah, c'est plus facile. Comment un homme sait que sa femme, elle l'aime? Le kavod et quoi encore?
Tu vas manger
l'intime,
le ventre de
l'intime.
Très bien. Un homme.
C'est tout, mais je donne rien.
Tu vas tout donner. Alors, l'homme, un homme, comment est-ce qu'un homme va savoir que sa femme, elle l'aime? Les copines, comment est-ce qu'un homme, il va savoir que sa femme, elle l'aime? Ça va passer par le respect et l'attention qu'elle va lui donner. Et ça va passer, Bémet, par l'amour qu'elle va lui donner. Parce qu'un homme, c'est mathématique chez lui, c'est comme ça. J'aime ma femme, donc j'ai envie d'être avec elle. Donc il se dit, ça c'est son idée à lui. Donc il se dit, si ma femme, elle n'a pas envie d'être avec moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Et donc là, il commence à paniquer. Et comme la femme, elle ne comprend rien, donc lui aussi, il va faire son petit chemin tout seul. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un fossé qui va se créer, un écart, d'accord, pour qu'à un moment donné, on s'aperçoit que on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à parler. Et en effet, cet écart, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le juger mal, tu vas le regarder avec un mauvais regard. Et lui, pareil, il va te regarder avec un mauvais regard, il va mal te juger. Même les fois où toi, tu voudras faire bien, lui, déjà, il aura un mauvais regard et vice-versa. Ce qui fait qu'automatiquement, et le Yetzer Hara, bien évidemment, est très content, il se dit, espérons que ça continue. Ce qui fait qu'automatiquement, d'accord, on se retrouve dans un cas et dans un schéma où Bémet, c'est la guerre à la maison. Toi, en tant que femme, tu te dis, ben, j'ai raté ma vie, je l'aime plus. Le type, en fin de compte, il a changé, c'est un pourri. C'est pas qu'il est pourri. Il est peut-être devenu nerveux, mais c'est normal. Un homme qui ne trompe pas sa femme, un homme qui ne trompe pas sa femme, ou qui va pas aller se déverser autre part, ben, c'est sûr qu'à un moment, il va devenir nerveux. C'est normal. Si tu lui donnes pas d'amour, tu lui donnes rien et qu'il n'y a rien à côté, s'il ne va pas à côté, bah oui, c'est normal qu'il va devenir nerveux. Ne cherche pas. Donc, ce n'est pas qu'il est devenu... et dans le cas contraire...
Il a un sentiment de culpabilité, je pense.
Ah oui, c'est sûr, même quand il va la tromper, tu veux dire ?
Il rejette après sur sa femme.
Bien sûr, ça c'est certain. Un homme qui trompe sa femme, d'accord, ne croyez pas qu'il y va de gaieté de cœur. C'est pas vrai, les filles. Et Bémet, que j'en ai des bandits à mon... J'en ai. C'est pas vrai. Ils sont pas contents au fond d'eux. Je peux vous le garantir qu'ils sont pas contents. D'accord ?
Et souvent, ils offrent des diamants.
Malheureusement. Ils croient et ils pensent que parce qu'ils ont mis des diamants que ça va régler le problème.
Et pourquoi il est trompé ?
Alors Myriam pose une question. Myriam a posé une question qui paraît très simple, mais je trouve qu'elle est très pertinente. Elle me dit, mais pourquoi il les trompe ?
Eh oui.
T'as tout à fait raison de poser cette question.
Est-ce que c'est des hommes ?
Non,
c'est leur caractère.
Les hommes, ils peuvent tout avoir à la maison.
C'est leur caractère. Oui, mais pas.
Il y a des hommes qui sont pas plus durs. C'est un animal.
J'ai pas dit ça, moi, oh. Je te dis simplement. Je te dis simplement. Je te dis simplement.
Mais malheureusement, ça existe que les hommes ils trompent leurs femmes. Ils sont bien avec leurs femmes, mais après ils trompent par derrière.
Tu as dit.
Ils étaient bien à la maison, ils vont pas chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas à la maison.
Non, c'est
une maladie alors.
Attends. Est-ce que je peux parler?
Ne parlez pas des cas qui sont isolés. On parle de la généralité des hommes. S'ils n'ont pas à la maison, ils vont ailleurs, c'est tout.
Bon. Alors. Quelqu'un a dit.
C'est des furies.
Alors. Alors. Quelqu'un a dit.
Les filles, allez, s'il vous plaît.
Quelqu'un. De toute façon, on ne partira pas avec toutes les réponses, c'est sûr. Mais quelqu'un a dit, l'homme, c'est un animal.
Oui, bon. Voilà.
Alors, il faut savoir que un être humain...
C'est la première fois que je parle. La première. Je me suis sentie maîtrisée. Excuse-moi. C'est une maladie.
Alors... Alors je, moi je ne dis que ce, moi vous n'êtes, enfin moi j'entends pas tout ce qui se dit. Moi je prends la responsabilité sur mes paroles à moi. Le reste je prends pas de responsabilité. Chacun dit ce qu'il veut. Donc quelqu'un a dit que un homme est un animal. Alors je vais reprendre en disant l'être humain. Qu'est-ce qui différencie un être humain d'un animal ? C'est la parole. Donc déjà, dans un couple, si on est un couple où il n'y a pas la parole, où il n'y a pas la communication, d'accord, et une vraie communication, ça veut dire une vraie communication, c'est une communication où on va mettre notre cœur. Une communication où on va être sincère. Et on va essayer de s'écouter l'un et l'autre sans se juger. Et quand on est dans une situation où la parole, d'accord, n'a plus sa place dans un couple... Donc en réalité, ce n'est pas l'homme qui est un animal, c'est le couple qui est devenu un couple d'animaux. L'être humain sans la parole, c'est un animal. Et l'être humain sans les bases de notre Torah, c'est un animal. Donc, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que souvent, une femme, elle croit qu'elle donne à son mari ce qu'il a besoin. Elle croit. Et malheureusement, les médias et la civilisation moderne nous fait croire que les hommes, ils recherchent beaucoup, beaucoup de sexe. Mais la réalité, c'est que les hommes recherchent l'amour.
Oui, voilà.
Quand un homme reçoit beaucoup d'amour, quand un homme il reçoit vraiment de l'amour de sa femme, ça veut dire un amour qui est sincère, un amour qui vient du fin fond de toi-même, et que on est à l'écoute de l'autre dans l'amour, on est à l'écoute l'un de l'autre dans l'amour. Alors automatiquement, on se donne des armes pour pouvoir justement être entre guillemets protégé de l'extérieur. Mais quand par exemple dans un couple, il y en a un ou l'autre, l'un ou l'autre ne donne pas de lui-même ou fait semblant. Par exemple, des femmes qui font semblant qu'elles prennent du plaisir.
Elles simulent.
Si tu simules dans ton lit, tu vas simuler aussi véritablement dans ta vie. Et à aucun moment le cœur n'y sera. Et s'il n'y a pas de cœur dans ton couple, alors tu n'as rien gagné en réalité. Le travail, le couple, c'est une avodat Hashem, c'est un service divin. Et le service divin, il se fait avec le cœur. Il faut que chacune, elle essaye. Alors bien sûr qu'on n'aura pas, on ne peut pas tout, d'accord, donner les réponses à chacune parce que malheureusement le temps ne nous le permet pas. Mais je pense que si on a lu ce texte aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si on a parlé d'avoir le regard, de porter un bon regard sur l'autre, de faire en tout cas ce travail, ce n'est pas pour rien. Je pense que si chacune de nous, on rentre à la maison en essayant de se dire, bon, jusqu'à présent, je regarde que le mal qu'il y a en l'autre. Je vais essayer de regarder les points positifs qu'il y a chez l'autre. Je vais m'efforcer de regarder ces points-là. Je vais faire en sorte de me fixer là-dessus et je vais faire en sorte d'avoir une discussion avec mon mari en lui disant, écoute, jusqu'à présent, je pensais avoir compris, mais je comprends que si aujourd'hui on a un souci dans notre couple, c'est peut-être parce que et toi et moi, on n'a pas réussi à communiquer véritablement d'une manière sincère avec le cœur. Il se peut que un des deux, et je m'inclus, d'accord, ça veut dire tout, tu lui dis pas tu n'as pas fait, un des deux et peut-être moi la première, je n'ai pas essayé de rechercher, de comprendre qu'est-ce que tu attendais de moi. Si chacun il essaie d'ouvrir son cœur vers l'autre et que chacun il essaie véritablement de comprendre, d'accord, et de prendre sa part de responsabilité, alors peut-être que oui, un jour, on arrivera à être cette fameuse femme dont on nous parle, qui, oui, elle attend d'être dans les bras de son mari, oui, elle attend de recevoir de son mari, parce que, Béhémet, que toute la vitalité d'une femme, elle peut la prendre uniquement de chez son mari, et au moment de la relation intime, qui nourrit complètement une femme. Ça, c'est la vraie vérité. La relation intime nourrit la femme. Et si aujourd'hui, on n'en est pas là, c'est parce qu'il faut que chacun de nous se dise, c'est qu'il y a une lumière rouge dans mon couple qui est en train de clignoter. Et il ne faut pas attendre, d'accord, que ce soit la catastrophe au point qu'on dit, c'est fini, je vais divorcer. Il vaut mieux se dire, écoute, ce n'est pas grave, ce n'est pas honteux de dire... J'ai un problème dans mon couple. C'est comme quand tu as mal à l'oreille, tu as mal au pied, tu vas chez le docteur. Tu as une ride, tu vas chez le docteur. Et bien là aussi, tu as un problème dans ton couple, Tu vas chez quelqu'un, tu dis j'ai besoin d'aide, on ne s'en sort pas. Donc c'est important d'essayer véritablement d'avoir l'humilité de dire mon couple a mal et il faut essayer de trouver une solution et surtout de ne pas rester d'accord, dans ce genre de problème parce que divorcer c'est très simple. C'est très facile d'aller divorcer, croyez-moi. Alors il faut toujours se dire la rabanoute elle est ouverte tout le temps. D'abord, je me donne une chance. D'abord, j'essaye. J'arrête de croire que c'est l'autre le problème. Je me dis, c'est peut-être moi aussi le problème. Et je bosse. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on en arrivera à comprendre que, en essayant de regarder dans un couple, chez l'un et chez l'autre, le point positif, ça veut dire la nekuda tova, d'accord ? Le point positif qu'il y a en chacun de nous, automatiquement, on peut avancer et on peut évoluer pour essayer de reconstruire. J'ai fait un mixte des deux, Bezrat Hashem, et de la Torah du témoin.
Ça veut dire que la femme, elle doit se donner beaucoup de plaisir envers l'homme, et elle doit avoir beaucoup de volonté de donner beaucoup d'amour envers l'homme. Oui. Si elle ne le donne pas, alors le mari peut la tromper.
Azvé Shalom.
Non, ben voilà. Si elle a beaucoup d'affection. Oui. Non, c'est ça. Si la femme, elle se donne, elle donne beaucoup d'amour à l'homme, alors ça, le contact, il reste. Mais si elle ne donne pas d'amour et qu'elle n'a pas d'envie, alors lui, il va chercher ailleurs.
Amen. C'est vrai. C'est ça. En simple, c'est ça.
Et ben, c'est ça.
Merci à toutes. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.